Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Si vous étiez grand reporter, on pourrait dire que vous signez avec votre dernier livre, Exorcisme, que je montre à la caméra, publié chez Grasset il y a quelques semaines, un ouvrage qui se situe dans la veine de Hunter Thompson, que vous connaissez personnellement, et du fameux journalisme Gonzo, qui a popularisé la démarche avec son célèbre reportage sur les Hells Angels. Si vous étiez psychiatre ou psychologue, à la fois expert et expérimentateur du LSD, je vous comparerais à Timothy Leary. Mais vous êtes sociologue, l'un des plus prolixes en France aujourd'hui, et tant mieux. Et je me propose peut-être, n'apprécierez-vous pas la comparaison, de rapprocher votre livre du très fameux Street Corner Society du grand sociologue américain William Footwhite, professeur à Cornell University, qui a présidé l'Association américaine de sociologie. Hormis qu'il y a une grande différence quand même entre la célèbre recherche de Footwhite, qui a signé donc ce qu'on appelle un des premiers travaux pionniers de l'observation participante, et votre dernier livre. Quand White étudie les relations sociales au sein du quartier italien de Boston et qu'il en fait une ethnologie minutieuse, il n'en est pas natif. Ce n'est pas son milieu d'origine, à l'inverse de vous. Exorcisme, votre ouvrage est une forme d'égo-sociologie, alors concept qui n'existe peut-être pas vraiment, comme les historiens parlent d'égo-histoire aujourd'hui. Votre texte se lit comme un roman d'apprentissage, avec de très belles qualités littéraires, c'est mon opinion. L'ambiance, les personnages, les situations rappellent, alors est-ce que c'est à cause de la Lorraine, les romans de Nicolas Mathieu? Alors pas sûr ici que le rapprochement vous convienne, vous nous le direz. Pas sûr non plus que ça lui plaise à lui, on lui demandera pas. Vous avez 54 ans aujourd'hui, pardon pour cette indiscrétion, puisque vous êtes né la veille, mais 19 ans plus tôt, en 69, du jubilé de Michel Platini, dont vous parlez dans votre livre qui a lieu à Nancy en 1988, le 23 mai. Vous sortez des égouts à ce moment-là. Pourquoi avoir écrit maintenant ce livre sur votre jeunesse, sur vos amis, sur cette histoire étonnante qui se déroule principalement à Nancy ?
D'abord parce que je pense que ce genre de livre, il ne faut pas les écrire trop tôt. Je crois que le fruit tombe de l'arbre lorsqu'il est mûr. Mais pour vous dire toute la petite histoire réelle de ce livre, c'est que je n'en ai pas eu l'idée. Et c'est important de le dire parce que je crois que je n'en aurais pas eu l'idée. En tout cas, j'en aurais peut-être pas eu l'audace. Donc le mérite en revient en partie à mon éditeur, Christophe Bataille, éditeur bien connu des éditions Grasset, lui-même très bel auteur d'ailleurs, très bon auteur, très bel auteur. Qui avait lu dans certaines interviews, parce que la question m'avait été posée, que j'avais mentionné le fait, quand on m'a demandé pourquoi vous travaillez sur les croyances, sans me creuser trop, je m'étais dit qu'il devait sans doute y avoir un rapport avec mes passions de jeunesse. Et donc j'avais fait, non pas la confession, parce que j'en ai aucune honte, mais la mention du fait que j'avais été très croyant. Et quand j'ai dit ça, je me suis rendu compte que j'avais été vraiment très, très croyant. Christophe Bataille voulait en savoir plus. Et à l'occasion d'un déjeuner, je lui ai raconté l'histoire un peu rocambolesque que vous connaissez maintenant. Et il m'a dit, tu ne peux pas ne pas en faire un livre. C'est une histoire invraisemblable. Et ma première crainte, c'était pas tant de me dévoiler. Certains disent que j'ai pris un risque en écrivant ce livre. Je crois pas du tout, en réalité. Mais par contre, j'avais vraiment l'impression... peur que ça n'intéresse personne. Je me suis dit, mais mes petites histoires, qui ça peut bien intéresser? C'est un peu une histoire de pieds nickelés. Et en y réfléchissant bien, d'abord, je suis très content d'avoir écrit ce livre parce que ça m'a permis, en effet, d'avoir une vision beaucoup plus claire des liens de causalité qui en sert à la fois mon enfance, mon adolescence et ce que je suis devenu aujourd'hui. Et puis, je trouve que pour ceux qui sont intéressés par ce que j'écris, je suis content qu'il y en ait quelques-uns. Je crois que c'est une pièce dans un puzzle qui n'est pas dispensable, en fait, qui est assez nécessaire, finalement, pour comprendre non seulement pourquoi j'ai cette passion pour ces objets croyances, mais aussi la façon même dont je fais de la sociologie, en fait. Ce n'est pas pour rien que j'ai été séduit par certains auteurs, parmi les sociologues, plutôt que d'autres.
Alors, on y reviendra. On reviendra à Weber, on reviendra à Boudon, hein, parce qu'effectivement, vous en parlez dans votre livre. Hein. Je vais tout de suite aller à une page 211, j'allais dire. on va de soi à gambade, comme dit Montaigne, mais c'est le début du chapitre 9. avant de reprendre votre histoire personnelle. Et ne croyez pas, parce que, je fais ça par esprit d'escalier, parce que vous avez cité Christophe Bataille, les deux personnes que je vais citer, c'est André Breton et Roger Caillois, mais ça n'a pas de lien avec Georges Bataille. Hein, bon, voilà. Bon, vous nous racontez la dispute, justement, au sens presque académique du mot, qui oppose en 1934 deux grands amis, c'est assez cocasse, donc, jusqu'alors, André Breton et Roger Caillois. Ils se disputent à propos d'un poids sauteur du Mexique. Et cette controverse va prendre une dimension telle qu'ils ne vont jamais plus se reparler de leur vie, dites-vous, après cette histoire. Et vous en tirez une leçon, un peu la petite morale. Si tu démystifies la cause, ne t'étonne pas de ne plus pouvoir t'enivrer de ses effets. C'est une très belle phrase. Hein. Si tu démystifies la cause, ne t'étonne pas de ne plus pouvoir t'enivrer de ses effets. C'est un passage d'autant plus important que 10 pages plus loin, vous, page 221, vous en reparlez de cette histoire à propos de votre relation avec votre grand ami Christian. Alors, est-ce que finalement, le cœur de votre livre n'est pas la place que chaque individu réserve au mystère et à leur compagne, en quelque sorte, les coïncidences ? Ce terme coïncidence est d'autant plus important que vous lui réservez, semble-t-il, une part abondante dans votre bibliographie, puisque vous avez dédié votre livre « Coïncidence, nos représentations du hasard » justement à votre ami Christian. Et vous dites de ce livre « Coïncidence, c'est mon testament de crédule ».
Oui, certainement. C'est vrai que cette anecdote qui oppose Caillois, Roger Caillois et André Breton, elle est savoureuse. Je la tiens d'ailleurs de la lecture de Jean-Bruno Renard, de son livre qui s'appelle « Le Merveilleux », un livre tout à fait remarquable par ailleurs, et qui me paraît finalement bien décrire aussi mon parcours. J'ai le sentiment d'être passé un peu, si je puis dire, sans faire de comparaison avec ces grands noms, de André Breton à Roger Caillois.
Vous le dites.
Il faut le dire pour ceux qui nous écoutent. En fait, la controverse est autour d'un poids sauteur du Mexique. Et la question est de savoir si on doit couper le poids pour résoudre le mystère ou au contraire, ne surtout pas toucher le mystère pour pouvoir continuer à rêver à son propos.
Alors, Caillois veut couper et Breton ne veut pas couper, c'est ça?
Évidemment, Breton ne veut pas couper, ça n'étonnera personne. Et dans le fond, le fait de ne pas vouloir couper, je le comprends bien, c'est de pouvoir jouir encore du mystère, mais d'en jouir en acceptant finalement de s'y aliéner. Et je me suis rendu compte que dans ces 10 années qui ont passé et qui m'ont fait sortir de la crédulité, parce qu'il m'a fallu 10 années pour sortir de mes croyances radicales à peu près, eh bien j'étais plus devenu Roger Caillois, c'est-à-dire oui à l'enchantement du monde, mais non, si le prix à payer, c'est celui de l'aliénation mentale, tout simplement. Et c'est comme ça que j'essaye aujourd'hui de me tenir dans le monde. Et en effet, la dernière chose qui a tenu dans ma citadelle de crédulité, parce que j'ai dû retirer couche après couche, face au réel, on cède toujours. On finit par céder. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fini par céder et pas mécontent de l'avoir fait. Mais il y a quelque chose qui tenait, c'était la notion de coïncidence. Comprenez que si les coïncidences qui nous arrivent, si vous les rabattez simplement au hasard, c'est une façon aussi d'admettre que le monde n'a peut-être pas de sens. Si au contraire, aux conjonctions extraordinaires qui peuvent se produire, la répétition de chiffres, que sais-je, de couleurs dans votre vie ou d'anecdotes qui se ressemblent, si vous y voyez un message quelconque, c'est que peut-être l'univers a un sens. Évidemment, en tant qu'individu comme nous tous, je meurs d'envie que l'univers ait un sens. Mais cependant, je ne veux pas céder à ce désir si, encore une fois, le prix à payer, c'est celui de l'aliénation mentale. Or, les coïncidences nous en serrent de chaînes qui sont des aliénations. Et c'est même comme ça que j'ai commencé à me radicaliser, c'est en découvrant des coïncidences, certes assez étonnantes, autour de moi. Et puis, peu à peu, à les rechercher de plus en plus activement. Et quand vous commencez à faire cela, il y a une symphonie qui s'organise autour de vous. L'univers se met à vous parler, croyez-vous. En réalité, notre cerveau est un puissant outil à détecter ces coïncidences, à chercher des lois là où il n'y en a pas. Et c'est ça, l'aliénation mentale, c'est de croire qu'il y a du sens, des lois, là où il n'y en a pas. Et c'est vrai que mon cher, très cher ami et frère Christian, qui est un des frères de cette aventure, et que j'ai vu encore il y a quelques jours, est devenu beaucoup plus rationaliste que nous l'étions. Mais tout de même, il y a cette différence entre nous. C'est que lui s'accroche à cette question des coïncidences, moi pas. Je ne sais pas qui a tort ou a raison, mais c'est vrai que j'y ai consacré un livre qui est en quelque sorte le testament de mon moi crédule.
Alors, je dis quelques mots du milieu social dans lequel vous grandissez. Hein. C'est un milieu effectivement modeste. Votre maman a eu un premier enfant, votre grande sœur à l'âge de 16 ans. Vous avez un petit frère. Votre père biologique va quitter votre foyer. Vous êtes élevé par un beau-père, un Portugais. Vous dites le bel Antonio. Votre maman est employée. Votre beau-père travaille de nuit comme livreur. Vous vivez dans un petit appartement situé dans un immeuble du vieux Nancy. La description que vous en faites, et en particulier des locataires précédentes de l'appartement, est tout à fait savoureuse. Et vous nous faites d'ailleurs de cet immeuble une espèce de description clinique. On dirait presque la vie mode d'emploi de Pérec. C'est très bien, c'est très bien fait. Oui, voilà. Et puis il y a une partie de votre famille vit d'ailleurs là, et il y a surtout votre oncle Jean-Luc qui vit seul avec votre grand-mère, on va y revenir, et qui a pris une place très importante dans votre processus initiatique. Je voudrais que vous disiez un mot des femmes de la famille, parce que à leur sujet, vous avez, page 30, une jolie formule, là encore, il y a une tradition à leur sujet, dites-vous, elles sont abandonnées, divorcées, trompées, trahies par les hommes, et par conséquent, en colère. Mais en même temps, elles sont d'une extraordinaire bienveillance. On se voit bien. Quel rôle a joué votre maman dans toute cette adolescence et post-adolescence ?
Bah, maman a joué un rôle protecteur et puis surtout d'accompagnateur et surtout de devoir de liberté. C'est-à-dire que j'ai joui en tant que très tôt, en tant qu'enfant. Peut-être d'ailleurs d'une excessive liberté, pour être tout à fait honnête, puisque je sortais déjà la nuit quand j'avais 11 ou 12 ans, vous voyez, donc à des âges où on ne sort pas, mais parce que ma mère avait manqué formidablement de liberté. Elle était très corsetée, contrainte par sa maman, ma grand-mère, et de là qu'elle, c'est son interprétation, qu'elle a fait très tôt, trop tôt des bêtises. Comme avoir un enfant à 16 ans, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure idée qu'on peut avoir dans la vie. En tout cas, quelque chose qui lui a retiré toute possibilité de faire un peu d'études, etc. Elle est devenue femme de ménage, tout simplement, pendant une grande partie de sa vie. Et ma mère, je crois, n'a pas assez bien vécu sa vie. Elle n'a pas croqué dans la vie, parce qu'elle a été maman très vite, puis maman une deuxième fois, parce qu'elle a 20 ans, elle avait déjà deux enfants, dont moi, enfermée très vite dans une cité HLM, parce que j'ai grandi d'abord avant cet immeuble dans une cité HLM, à Vendeuvre. Mon père parti, donc elle est abandonnée, comme toutes les femmes de la famille. Et donc pas facile, elle se retrouve sans emploi à ce moment-là, sans emploi, avec deux enfants en HLM. Mais par contre, elle est très protectrice de ses enfants. On sait qu'elle nous aime, non pas par les mots qu'elle nous dit, mais par l'angoisse dont elle nous entoure.
La scène que vous décrivez quand vous rentrez avec le bac en poche, c'est très touchant. Vous rentrez dans l'appartement. Ouais. Voilà, ça, c'est un moment qui est très, très fort. Oui, oui, oui. Oui.
Et effectivement. Et donc, on est très complices, ma mère et moi, d'autant que ma sœur part très tôt. Du foyer à 16 ans, elle part. Vous voyez, ça c'était possible dans ma famille. Elle part pour aller vivre avec un garçon. Et donc je me retrouve tout seul, un peu élevé mon petit frère, parce que mon petit frère a une dizaine d'années de moins que moi, donc il a 3-4 ans. Vous voyez, quand je suis adolescent, et mes parents travaillent vraiment du matin jusqu'au soir, donc je m'en occupe. C'est le rôle, c'est le rôle aussi des enfants de s'occuper les uns des autres. Et donc ma mère me fait confiance très tôt. Trop tôt même, sans doute, je le dis. Une grande liberté. Mais par contre, elle va participer, comme elle n'a pas vécu vraiment, elle va participer ensuite, un peu par procuration, à toutes mes aventures. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le mouvement que je vais fonder. Oui. Elle veut en être. Et peut-être d'ailleurs qu'elle n'a pas si bien pris que ça, mon départ à Grenoble, etc. Ouais. Peut-être qu'elle s'est sentie un peu abandonnée par la vie. Parce que je crois qu'à un moment, je représentais quand même un peu la vie.
Mais quand vous dites, Gérald, qu'elle veut en être, par exemple, du cerf, on va venir sur le cerf dans un instant, c'est le mouvement en question, c'est pas pour vous chaperonner, selon vous, c'est parce qu'elle veut être participante, oui.
Elle veut vivre, ouais. Elle veut vivre, elle trouve que c'est drôle, elle a envie d'être là, hein, tout simplement. C'est pas pour contrôler. Et d'ailleurs, les deux mères, la mère de Naïl, qui est oui, l'autre ouais, camarade
Madame
qui
Boumadi,
le mouvement avec moi.
Madame Boumadi, oui.
Madame Boumadi, ouais. Elle fait aussi partie du mouvement. Donc, tout ça est une joyeuse dinguerie, il n'y a pas d'autre terme, auquel nos parents participent, quoi. Donc, c'est assez difficilement imaginable. C'est vrai que maintenant que j'y repense aujourd'hui, ouais. Christophe Bataille avait raison, c'est une histoire incroyable.
Alors, là où elle ne vous accompagne pas, par contre, même si, bon, on ne sait pas si elle est dupe ou pas, c'est quand même dans vos premières fréquentations. Alors, vous avez des très bons copains, des amis. On sent qu'il n'y a pas de conflit intercommunautaire à l'époque. Christian est un métisse. Est un métis franco-américain. Son papa est noir. Il est soldat au Vietnam. Il est rentré, on comprend, avec des vraies difficultés, on dirait aujourd'hui, de PTS, hein, de syndrome post-traumatique. Bon. Il y a beaucoup de copains d'immigration maghrébine. Mais vous êtes quand même, le livre commence comme ça, vous avez un certain flirt avec la petite délinquance. Même si vous avez une formule très rigolote, vous dites l'offre que nous avions, des choses volées, étaient déséquilibrées par rapport à la demande, qui était faible. En fait, vous n'avez pas réussi vraiment à mettre en place un circuit de recel, on va dire, bon, de fourgue. Bon. Mais quand même, vous dites aussi, page 14, « Arrivé à l'âge de 20 ans, certains de mes amis avaient déjà passé un tiers de leur vie en prison. » Bon, vous y échappez. Comment vous expliquez que vous y échappez ?
Bah, la chance, tout simplement. La chance, le hasard. Alors évidemment, j'interprète pas ça comme ça, moi, à cette époque-là. D'une part, oui, la tentation de la délinquance, elle est malheureusement banale pour des jeunes qui viennent de milieux modestes. Hein. Ils sont pas tous tentés par la délinquance, mais c'est une façon de se tenir dans le monde possible, c'est-à-dire de finalement de bénéficier d'une forme de respect de la part des autres. Et c'est ça qu'on cherche. C'est pour ça que l'anecdote sur l'économie est intéressante. C'est que, en fait, on n'en vivait pas du tout. Donc, c'était vraiment pas pour des raisons économiques. On n'arrivait pas à vendre ce qu'on volait. J'avais des autoradios chez moi qui s'accumulaient, etc. On n'arrivait pas du tout à vendre ce qu'on volait. Et donc, c'était pas ça le but. Le but, c'était vraiment d'être distingué par les autres et d'être respecté. Voilà. C'était une façon de faire. Et ce fondamental, c'est que j'ai découvert une autre façon de faire, notamment en faisant des arts martiaux. Là, j'ai découvert d'autres valeurs, ce qui est assez banal, hein, ce qui arrive à plein de gens comme ça, de cette nature. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que fondamentalement, je n'étais pas fait pour ça. Je jouais le jeu parce que c'est une question de survie symbolique. Mais je n'étais pas très à l'aise avec ces pratiques, ni mon copain Christian, d'ailleurs, qui m'accompagnait dans mon flirt avec la délinquance. Et par contre, c'est ce que je raconte. La première anecdote que je raconte, j'ai failli monter sur ce qu'on appelait un casse, entre guillemets. C'est un terme très excessif. Mais enfin, toute la bande, je n'y suis pas allé. J'ai eu une sorte d'intuition étrange, simplement. Ce n'était pas vraiment de la peur, parce qu'honnêtement, je cherchais à ce moment-là ce capital symbolique. Et donc, je n'y suis pas allé. J'ai senti une terrible fatigue ce soir-là. Et j'y ai vu après comme la main d'un dieu, en fait, qui m'aurait retenu. Voilà, qui m'aurait. C'est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises beaucoup de chance, mais c'est normal dans un échantillon de X personnes. Il y en a quelques-uns qui sont chanceux, d'autres malchanceux. Et c'est vrai que si par malheur j'avais eu un casier judiciaire, tout simplement, j'aurais pas pu devenir professeur d'université comme aujourd'hui. C'est simple que ça.
Justement, alors vous venez de prononcer, j'allais dire, le mot, le « il » avec un « i » majuscule ou le « lui » avec un « l » majuscule. Il est beaucoup question de spiritualité dans votre préadolescence. Pas de religion, hein, mais de spiritualité. Vous êtes même à j'allais dire, inventer ce que vous appelez un général de Gaulle à longue barbe. Dites-vous, ce qui est assez drôle, parce que j'ai vérifié, vous n'êtes pas du tout un enfant de la période gaulliste. Moi, oui, mais vous êtes un enfant de Giscard, si je puis dire. Vous êtes un enfant de la période Giscard. Donc, le gaullisme, vous ne l'avez pas connu. Vous êtes né en 69, c'est l'année où le général de Gaulle quitte le pouvoir. Mais vous pensez qu'il y a une espèce de général de Gaulle barbu qui vous surveille
Oui, parce qu'en fait, ça peut être une blague, hein, mais le général de Gaulle, ça reste encore la figure tutélaire du papa politique, on va dire, de la nation française au XXe siècle, ou en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc c'était un peu pour mentionner le fait que ma foi dans cet être était faite de briquet de broc, elle était faite de pop culture, en fait. C'est-à-dire, comment je l'imaginais physiquement? Oui, un peu comme le général de Gaulle avec une barbe, c'est-à-dire comme une sorte de papa lointain, qui a une forme d'autorité.
C'est mieux que Pétain. Hein.
Ah bah, c'est incontestablement mieux que Pétain. Mais je connaissais même pas, si vous voulez, je connaissais même pas Pétain. De toute façon, ma culture historique n'était même pas à ce niveau-là quand j'étais adolescent. Mais c'était surtout plus facile à imaginer quelqu'un d'ailleurs de mort. J'aurais pas pu imaginer Valéry Giscard d'Estaing avec une barbe. Hein. Tout respect pour lui, mais je n'aurais pas imaginé comme une sorte de figure divine. Mais c'est quand même un peu une blague. En tout cas, oui, une sorte de papa à grosse barbe, comme on voit dans certaines iconographies populaires, bienveillant. Et qui m'aurait aimé moi tout spécialement. Et on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Mais c'est le sentiment que tous les croyants ont. Je pense que tous les croyants ont l'impression qu'ils ont un petit lien particulier avec cette entité.
Alors on va parler de Jean-Luc, votre tonton. Vous dites, mon oncle Jean-Luc allait devenir mon dealer. Car c'est d'addiction dont il s'agit, écrivez-vous. Lorsque j'entrevis son univers, ces mondes étaient extraordinaires. Les peuples anciens, celtes, Égyptien, la possibilité du Nil. Bon, bonjour le jeu de mots pour Houellebecq, merci. John Ronald Reuel Tolkien, on y reviendra plus tard. Les surréalistes, les Beatles, Alan Stivell, Fluide glacial et toutes ces offrandes qui me paraissaient scintiller et me rappeler nostalgiques les sonorités anciennes d'un pays qui avait dû être le mien dans une autre vie. Je voulus vivre là, dans cette chambre, qu'est son antre, et ne plus en repartir. Alors là, vous parliez tout à l'heure de pop culture, c'est extraordinaire. Votre inventaire, c'est pas un inventaire à la Prévert, c'est tout à fait concret, et on voit bien. Vous dites l'univers de vinyle, l'univers de livres, un peu de la littérature alternative ou underground, etc. Bon, cet oncle Jean-Luc, on peut dire que c'est en fait un médium pour vous, c'est quelqu'un qui est un intermédiaire, c'est ça?
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il possède un bien auquel j'aspire, mais que je ne connais pas encore, mais que je reconnais immédiatement. C'est peut-être ça l'étrangeté, finalement. C'est-à-dire que je vis dans un monde, au départ, sans livres. Il n'y a que deux livres, en fait, chez moi. Je m'en rappelle très bien, c'est pour ça que ça m'a marqué.
Lesquels ? La Bible ?
La Bible, qui est couverte d'une sorte de protection verte, comme ça, pomme, je me souviens, de la couleur. Et non pas qu'on soit très religieux chez moi, je ne suis pas baptisé, d'ailleurs, mais enfin, voilà, on a la Bible, et il y a un livre de la collection, je crois, Flammarion étrange, et une petite collection de poches rouges. Voilà, et sur les extraterrestres, la Lune, et je ne sais pas quoi, donc un livre. Et évidemment, j'aspire, en fait, à lire, mais je ne le sais pas encore, mais dès que j'entre chez mon oncle, qui est en fait un vieux garçon qui vit chez sa mère et qui n'en sortira jamais. Mais les murs sont tapissés de livres, de disques, de culture. Chez lui, on écoute France Culture, d'ailleurs. Je comprends pas toujours bien. C'est ça qui est étrange, mais ça me plaît. Je passais des nuits, parce que tout m'était autorisé, hein, donc je pouvais découcher et donc faire des nuits blanches, alors même que j'avais cours, que j'allais au collège le lendemain. J'allais au collège parfois, sans avoir dormi de la nuit, mais repu de toutes les histoires que j'avais entendues sur France Culture. Quelquefois, nous restions deux ou trois heures silencieux à écouter simplement la radio. Et puis d'autres fois, on parlait jusqu'au petit matin. Sauf que Jean-Luc, lui, il allait dormir. Et quand moi, je devais aller au collège. Voilà. Mais pour moi, c'était un monde enchanté. C'était quel que soit le niveau de fatigue, c'était un cadeau qui m'était fait. Donc oui, c'était une sorte de dealer parce qu'en plus, il ne m'ouvrait pas toujours la porte. C'est-à-dire, je venais gratter, je venais quémander. Et je dirais qu'une fois sur trois, il m'ouvrait la porte en disant « entre ». Les autres fois, il disait « non, j'ai du travail, on se demande quoi d'ailleurs, j'ai autre chose à faire, ne viens pas ».
Des fois, vous dites, vous rentriez, mais il mettait 20 minutes à vous parler.
Ah oui, de toute façon, c'était le prix à payer, parce que, bon, je pense, et je le comprends, je ne mettais pas encore de mots à l'époque, j'avais peut-être pas assez de générosité, mais il était très certainement très dépressif. Et donc, oui, il mettait 20 minutes à émerger, à se rendre disponible à l'autre, à l'altérité, à la conversation.
Ce qui est fascinant, on le mesure au fur et à mesure de la lecture de votre livre, c'est que vos amis aussi, Naïl, Christian, ils vont eux aussi rentrer dans après vous, dans l'antre. Hein, Kevin, oui, c'est extraordinaire. Hein, voilà. Alors, je vais
tous vont subir cette attraction, oui.
Je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître complètement, totalement inepte. Il y a des territoires en France, par exemple, qui dans nos représentations, qui semble assez naturellement propice à la transmission de légendes ou à l'apparition de situations paranormales. Bon, la Bretagne, bien sûr, avec les légendes arthuriennes, l'Ancou sur la mort, le plateau du Limousin avec un sous-sol très tellurique, très magnétique, hein, le Berry ou la Sologne avec le mystérieux et l'étrange remarquablement peint par Georges Sand ou Maurice Genevoix. Mais je n'ai pas le souvenir que la Lorraine, la Moselle, Nancy soient très connues pour leur mystère. Alors, quand on est à 30 km au sud de Pont-à-Mousson, à 90 km au sud de la vallée de la Fenge, ou avec Forbach à 110 km au nord-est, c'est pas les légendes qu'il y a là. C'est les hauts fourneaux, la sidérurgie, la métallurgie. Il n'y a pas mieux comme rationalité industrielle. Alors, qu'est-ce qui vous a fait croire tout d'un coup que Nancy était, dites-vous, le centre du monde, qu'il s'y passait des choses cachées depuis la création du monde, et c'est pas une référence à René Girard, ou comme disait Jean-Yann à la même époque en 77, que l'apocalypse était pour demain. Qu'est-ce qui fait que Nancy devient tout d'un coup la ville élue entre mille, dites-vous?
La vraie raison, la raison fondamentale, c'est que j'y habite. Et comme toute personne qui cherche à plier le monde à ses désirs, eh bien, on crée le merveilleux là où on se trouve. Mais tous les ethnologues vous diront que la plupart des tribus sont persuadées que le centre du monde se situe là, au centre du village où ils habitent, même s'ils sont une cinquantaine. Je n'ai pas fait autrement. Et ce qui est, ce qui édifie dans cette expérience, je l'espère, c'est que précisément, ça peut se passer n'importe où. Si vous avez assez d'imagination et assez de désir pour cela, vous allez trouver des signes, et j'en ai cherché avec mon ami Naïl, dans la pierre, dans la cathédrale, vous allez trouver des symboles qui annoncent ce que vous pressentiez en réalité. C'est-à-dire que tout commence par des sortes de blagues, en réalité, puis ces blagues deviennent des hypothèses. Tiens, et si, finalement? Et tiens, regarde, et ces hypothèses nous forcent à regarder le réel de travers, et de travers, vous voyez des choses que vous ne voyez pas quand vous tenez tout droit. Et tout à coup, vous accumulez, vous produisez un millefeuille argumentatif de preuves, de pseudo-preuves, de pseudo-érudition, parce qu'on mélangeait vraiment tout, la symbolique, le pseudo-folklore, etc. Et puis, tout ça a suffisamment de malléabilité pour produire une citadelle de crédulité. Il nous a fallu des mois, des années pour la constituer, mais une fois que vous êtes dedans, pas facile de vous en faire sortir.
Alors, il y a un élément qui est très important, j'allais dire, c'est presque le fil rouge, un des fils rouges, il y en a plusieurs, de votre livre. On se dit d'ailleurs que ce que vous allez vivre, ce que vous avez vécu à l'égard du paranormal, n'aurait sans doute jamais existé si vous n'aviez pas noué des relations amicales extrêmement fortes. Au point d'ailleurs que vous évoquez la fraternité. Je cite votre définition de la fraternité, c'est page 61. Vous dites « Cette sorte d'affection demande tellement d'abandon et une telle prise de risque qu'un seul instant de doute dilue la magie et vous fait revenir dans le monde des égoïsmes et des amitiés d'épicerie. » Alors, ce qui est très frappant, c'est que vous avez des fâcheries. En plus, à l'époque, les modes de relation sont pas simples. Hein. Évidemment, aujourd'hui, vu de 2024, le portable, SMS, etc., mais c'est pas du tout le cas. Donc, il y a des moments où vous vous voyez plus, puis vous vous retrouvez. Et vous dites d'ailleurs, ce qui est important, c'est que l'envoûtement spirituel, si je puis dire, il n'existe pas en dehors de l'enrôlement en amitié.
Oui, d'abord, on se radicalise pas tout seul. En général, ça, c'est toute l'histoire de la radicalisation qui le montre, à quelques exceptions près. Et moi, en effet, ce qui me sort de la délinquance, véritablement, c'est l'admiration que j'ai pour un garçon qui s'appelle Naïl. C'est pas son vrai prénom, mais bon. En l'occurrence, j'ai changé un peu les prénoms.
C'est comme Garance. Garance, vous avez changé le prénom, hein?
J'ai changé le prénom, en effet.
Mais c'était une belle référence. Une belle référence, parce que c'est quand même Arletty dans ce film culte de Carnet, quand même.
Absolument. Et en tout cas, il se noue effectivement entre nous une fraternité véritablement, plus que de l'amitié, c'est-à-dire une possibilité, en tout cas dans mon esprit à moi, je ne veux pas parler pour Naël, mais je pense qu'à l'époque, ça paraît un peu emphatique de le dire, mais j'aurais été capable de mourir pour lui. Enfin, je crois que je me croyais capable, peut-être que face au danger, vous savez, face au danger, le courage reflue, mais en tout cas, je me croyais à froid capable de mourir pour lui, de faire le sacrifice pour lui. On avait des idées un peu chevaleresques aussi sur l'amitié, etc. Et c'est vrai qu'on ne se radicalise pas tout seul, mais deux, ça suffit déjà un peu. Et l'un, l'autre, on s'engrenait en quelque sorte. Et j'ai longtemps cherché des gens pour rêver, en fait, avec moi. Et avec Naïl, je l'ai trouvé. Et puis ensuite, sont venus s'adjoindre une troisième, quatrième. Et puis bientôt, nous fûmes 60 arrivés au port. Et ce qui est quand même considérable, compte tenu de la nature un peu spectaculaire de nos doctrines, de nos croyances.
Alors attention, vous dites nous sommes 60, nous fûmes 60 arrivés au port, on va voir qu'il y a des cercles concentriques. Hein. Tout le monde n'a pas
absolument,
le même degré
tout le monde,
d'initiation hein, quand même. Hein, voilà, hein.
Absolument, oui. En fait, nous ne sommes pas 60 à croire exactement la même chose, parce que
mais c'est d'ailleurs
nous
très
sommes très très...
Oui. C'est d'ailleurs très intéressant, parce qu'on va voir d'ailleurs qu'au fur et à mesure que la quantité augmente, non pas la qualité baisse, mais l'objet... même va changer. Hein. Alors, on arrive au CERF.
Absolument.
On arrive au CERF. Donc, C-E-R-F. Alors, vous dites les symboles, la tour du CERF, la flèche du CERF à Nancy. Ça veut dire chercheur au pluriel en réalisme fantastique. Bon. Alors, vous êtes passionné par la lecture du Matin des magiciens, donc de Louis Powell et de Jacques Bergier, ouvrage publié en 60, hein, dans la collection Blanche de Gallimard, quand même. Entre autres, pour donner un petit... c'est de la pop culture encore, mais dans la bande dessinée, une des dernières de Tintin, Vol 714 pour Sydney, Hergé fait référence à Louis Powell et à Bergier dans le Matin des magiciens, hein, sur les fameuses ondes magnétiques. C'est dire un peu l'importance de ce que on va appeler le réalisme fantastique. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'était que le CERF, hein, quel est son objet, et puis à l'intérieur du CERF, le CI, qui est le cercle intérieur.
Oui, c'est ça. Ben, on adorait les hiérarchies, évidemment, à condition que nous puissions nous situer tout en haut. Hein, vous savez. On crée des hiérarchies avec l'espoir d'être en haut de la pyramide. Donc, en fait, on avait commencé à créer ces hiérarchies alors qu'on n'était que deux, enfin que trois, disons, puisqu'il y avait Kevin qui était là très tôt, qui faisait partie du cercle intérieur. En fait, il y a eu d'abord un cercle intérieur dans ce groupe avant même qu'il y ait de groupe. Donc, c'est ce qui s'appelle vraiment mettre la charrue avant les bœufs. C'était notre façon de faire. On mettait la charrue systématiquement avant les bœufs. Bah, c'était tout simplement un groupe qui a commencé donc à se constituer. Nous fûmes donc une soixantaine au terme de cette histoire, qui était un groupe millénariste. Qui peu à peu, suite de coïncidences, etc., s'est persuadé que Nancy était le centre du monde, ou du moins que c'est là que devaient survenir les premiers moments d'une forme de révolution universelle qui serait une fin des temps joyeuse, hein, qui verrait l'avènement d'une nouvelle forme d'humanité, comme on le rêve un peu dans le New Age, si vous voulez, parce que c'était des croyances... une grande salade où on mélangeait l'ésotérisme, l'occultisme, le New Age, un peu de religion aussi, etc. On faisait ça à notre sauce. Et donc, évidemment, comme souvent les mouvements initiatiques, on considérait que, parce qu'on en avait bavé, nous, pour mettre au point toute notre théorie, on avait lu des livres, quand même, on avait beaucoup travaillé, on considérait que ça se méritait. Et d'ailleurs, avec cette idée qu'une lumière dévoilée trop tôt à un esprit non préparé est de toute façon inutile. Cet esprit ne la verra pas. Donc, il fallait préparer les gens. Donc, on distillait un peu les informations à certaines personnes, mais très peu de gens. C'est pour ça que ce n'était pas une secte, en réalité, c'était plus un mouvement pseudo-initiatique. Très peu de gens étaient en fait au courant de la doctrine globale. La plupart des gens sont venus ensuite, surtout, pour adhérer à un mouvement qu'ils pensaient politique.
C'est ça.
Et révolutionnaire. Voilà.
Alors, vous dites révolutionnaire, plutôt noir que rouge d'ailleurs, mais on va y venir, parce qu'en fait, assez vite, vous dites, d'abord un mot, Pour exister, ce mouvement, ce CERF, a aussi besoin de se constituer des ennemis. Et ça, c'est un point important, je pense, de la radicalisation. La constitution d'ennemis, l'érection, en quelque sorte, d'ennemis, c'est une façon de se souder. Alors, vous avez, par exemple, des forces concurrentes, les compagnons de Sylvain. Il y a toute une scène avec le baston où les flics, finalement, sont là. Bon. Mais aussi les francs-maçons. Alors, vous n'êtes pas très doué parce que vous cherchez partout où les francs-maçons se réunissent à Nancy. Bon, je pense que ça ne devait pas être très compliqué de trouver le siège des loges. Hein. Bon, voilà. Hein, bon. Mais vous parlez de guerre des mages. Et ça, je pense que c'est un point aussi important dans votre approche sociologique du processus de radicalisation. Il faut qu'il y ait des adversaires, c'est ça?
Mais oui, il ne peut pas y avoir de héros sans danger. Mmh. Et il ne peut pas y avoir de danger sans incarnation de l'ennemi potentiel. Alors ces ennemis, ils ont varié. Au début, on imaginait des groupes satanistes qu'on n'a jamais trouvés et qui finalement n'existaient pas. Pourtant, plein d'indices semblaient indiquer. C'est-à-dire que nous n'étions pas irrationnels, nous n'étions pas fous. Il y avait des pseudo-indices qui semblaient indiquer leur présence. Et je me croyais moi-même, à cause d'une carte mancienne qui m'en avait fait la description, que j'étais moi-même envoûté. Donc c'est ça un peu cette guerre des mages. Et puis peu à peu, quand notre mouvement s'est politisé, on a transformé les satanistes en gens d'extrême droite, qui étaient beaucoup plus concrets pour nous, même s'ils n'étaient pas très nombreux, il fallait les chercher. Alors il y a eu quelques affrontements physiques par-ci, par-là, mais pour être tout à fait honnête, la plupart du temps, ces batailles n'avaient tout simplement pas lieu autrement que dans nos imaginations. Oui, il y a eu quelques petites étincelles, parce qu'on était quand même, on pratiquait les sports de combat, on était un petit peu bagarreurs. Mais en réalité, c'est dur d'entamer une guerre quand il n'y a pas d'ennemis. Et c'est là aussi le réel, heureusement pour nous d'ailleurs, hein, heureusement pour nous, sinon les choses auraient été beaucoup moins marrantes et beaucoup moins drôles que ce qu'on est en train de dire là, que l'échange que nous avons. Mais là aussi, cette figure imaginaire de l'ennemi, elle est tout à fait fascinante parce qu'elle s'était même incarnée dans un personnage en particulier, un vieil homme qui regardait le sol de façon obstinée et qui voulait dans notre finalement peu à peu au bout de quelques mois d'indices qui était censé s'opposer à la venue d'une forme d'un nouveau messie, puisque c'est une place qui sans doute lui-même se réservait. Or ce personnage existait à Nancy, c'est ça qui est incroyable. Nous avons fini par trouver un vieil homme qui était très connu à Nancy d'ailleurs et qui pouvait tenir ce rôle. Sauf qu'évidemment, ce vieil homme était totalement innocent de tous les procès que nous lui faisions. Nous sommes allés jusqu'à organiser des filatures. On suivait des gens dans la rue. Enfin, c'était un peu le club des cinq. Donc, heureusement, tout ça est drôle. Tout ça s'est bien terminé. On n'a fait de mal à personne. Mais parfois, je frissonne a posteriori de toutes ces histoires en me disant que la bêtise aidant, on n'est pas loin parfois du gouffre. Hein.
On voit bien qu'un des problèmes auxquels le CERF est confronté, vous le dites d'ailleurs très justement, c'est qu'au fur et à mesure qu'il recrute des adhérents, la dimension ésotérique tend un peu à se diluer et vous êtes effectivement proche de la sphère politique. Mais là, je vous cite intégralement, vous dites « Tous les groupes millénaristes sont confrontés à ce dilemme. La fin des temps, d'accord, mais quand? Faut-il l'attendre ou la provoquer? Nous n'étions pas assez patients pour la première option, donc nous avons choisi la deuxième. Revint alors de façon lancinante la question de Lénine, que faire ? Livre célèbre en 1905. Certains groupes millénaristes ont déclenché des massacres pour répondre à cette question. Vous venez de dire, effectivement, nous, on n'a pas fait ça. Nous n'avons jamais envisagé, quant à nous, la violence politique pour faire advenir notre révolution. Ce qui ne veut pas dire que nous étions incapables de violence, si ce n'est nécessaire. Notre slogan était « révolution pacifique ». Alors, vous dites quelqu'un un jour a modifié en disant « pacifique que ça ». Bon, d'une certaine façon, ce projet politique, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui arrive complètement par défaut?
Alors là, les choses ne se décident pas. Hein. C'est une lecture a posteriori, pour le coup. C'est ça, le romancier peut revenir sur l'acte du crime et lui donner un sens. La vérité, c'est que je ne me souviens pas que nous ayons décidé cela. Mais a posteriori, je m'aperçois que je craignais l'entropie du groupe, en fait, la dislocation, pas tout simplement par à force de ne rien faire. C'est-à-dire qu'un groupe ne peut pas rester comme ça s'il se passe rien. Et donc, on a commencé à s'occuper nous-mêmes en faisant des ateliers théâtre, etc. Mais pour justifier cela, il fallait imaginer que l'art, par exemple, pouvait changer l'âme des personnes et donc provoquer, aider à une révolution pacifique. Parce qu'en effet, nous n'étions pas du tout militaristes, nous n'étions pas violents dans le sens politique, nous n'avons jamais envisagé de faire du terrorisme, etc. Nous avons toujours été clairs là-dessus, même si en effet, notre doctrine politique était plutôt l'anarchie que le communisme ou le trotskisme. Nous étions assez libertaires dans notre état d'esprit et non violents en réalité. Oui, c'est vrai. Même si l'époque, les années 80, était quand même un peu violente. Il y avait quelques affrontements politiques et nous tenions prêts à répondre si on nous agressait. Mais c'est vrai que cette question lancinante du que faire quand vous ne voulez pas rentrer dans un parti politique, quand vous ne voulez pas seulement faire de l'activité associative, je le dis parce que c'est ce que j'ai fini par faire.
Oui,
j'ai fini par, finalement, m'inscrire dans des associations pour faire du soutien scolaire, pour distribuer des choses au SDF, etc.
Entre-temps, avant ces associations, et en particulier des cercles de fraternité que vous allez créer de retour à Nancy, il y a quand même un passage par le PS. Alors ça, c'est rigolo. C'est quand vous êtes parti à Grenoble faire votre thèse de doctorat de sociologie. Vous avez 2 ans, comme on dit, de contrat d'ATER, ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, puis vous revenez à Nancy. Mais quand vous êtes à Grenoble, et aussi à Nancy, vous adhérez au Parti Socialiste. Alors l'adhésion au Parti Socialiste me paraissait être une salissure, car c'était une forme de renoncement, dites-vous. Bon, mais un peu plus loin, vous dites, je ne veux pas écrire de mal. On se dit, qu'est-ce que ça serait, hein ? Je ne veux pas écrire de mal du Parti Socialiste, car j'y ai beaucoup appris, comme à l'UNEF. Ces institutions collectives sont trop dénigrées. Elles sont des universités populaires essentielles. Ça, c'est un passage important. Alors, vous avez quand même, au fur et à mesure de votre désenvoûtement, vous êtes rentré un peu dans l'action quand même, dans l'action sociale, on va dire.
Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser qu'en fait, le Parti Socialiste, c'est vraiment la chose qui arrive tout à la fin. C'est-à-dire, quand je suis à Grenoble, je suis à l'UNEF, mais je refuse de rentrer au Parti Socialiste. D'accord. Quand ma compagne de Garance, elle, y rentre, elle devient même une
sénatrice
politique d'aujourd'hui, que j'ai dissimulée en réalité, pour qu'elle ne soit pas reconnue, mais c'est une femme politique importante. Moi, je ne rentre au Parti Socialiste que bien plus tard, que quand je rentre à Nancy. C'est-à-dire, c'est vraiment la queue de comète. Et ça me fait mal, une salissure, non pas parce que je trouve que le Parti Socialiste est sale, c'est une salissure par rapport à la pureté doctrinaire que j'imaginais pour moi. Et c'est la preuve que je renonce pour moi. À partir du moment où je prends ma carte au Parti Socialiste, ça veut dire, je me regarde dans le miroir et je me dis, voilà, c'est fini en fait.
Il y a quand même un passage qui est très amusant, c'est vous dites, au Parti Socialiste et à l'UNEF, d'abord à l'UNEF à Grenoble, c'est la première fois que vous rencontrez des petits bourgeois qui parlent comme des durs. Et c'est très drôle. Par contre, ils parlaient de façon très ferme. Manifestement, ils n'étaient pas très courageux sur l'engagement physique. Ils parlaient de façon très ferme. Ils étaient même capables de hurler front contre front à certains moments d'élections ou de congrès. J'ai revu bien plus tard ce genre d'attitude parmi les membres de la France insoumise. Les Alexis Corbière ou Jean-Luc Mélenchon mimaient eux aussi cette virilité factice exposant leur corps à un danger inexistant. Ça, c'est un passage qui est très amusant. C'est pour ça que je me permets de le citer. Mais j'ai pensé en vous lisant à la fameuse phrase de Camus, « Je n'ai pas appris la liberté dans Marx, et je l'ai apprise dans la misère. » Bon, alors vous n'étiez pas d'un milieu aussi peut-être misérable que la maman de Camus à Bellecour, à Alger. Mais on sent que finalement, ces petits bourgeois qui font profession d'idéologie à gauche, c'est pas votre tasse de thé.
Non, j'ai pas du tout de haine de classe personnellement. D'abord parce que je suis devenu moi-même une sorte de bourgeois puisque je suis professeur d'université, même si je me vis plutôt comme un nomade social. C'est moi, je fais vraiment des allers-retours entre les catégories sociales. Je me sens encore aussi de mon milieu d'origine que je fréquente assidûment comme mes amis d'enfance. Mais effectivement, c'est un peu cocasse. de se donner, de s'entendre donner des leçons de ce que c'est que le peuple ou je sais pas quoi, de la part de gens qui, dont les parents étaient, et grand respect pour eux, hein, chirurgiens ou je sais pas quoi. Je me vois même imposer, depuis que j'ai publié mon autre livre, Les Origines, des tas de gens, en fait, il y a des épidémies de transclasse. En fait, tout le monde vient me voir en me disant, tu sais, moi aussi, mais mes parents étaient en fait chirurgiens. Moi aussi, mais mes parents étaient professeurs d'université. Mais c'est en fait le grand-père ou l'arrière. Quand on creuse un peu, on finit toujours par trouver un paysan. Hein. C'est normal, statistiquement, si vous voulez. Et puis, ces gens, dans le milieu politique, en effet, je ne veux pas faire de caricature, mais je l'ai souvent vu jouer un peu du menton, du plastron, plutôt que du vrai coup de poing, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, si je parle de la France insoumise, c'est parce que c'était des gens à l'UNEF qui sont tous rentrés dans la France insoumise ensuite, enfin, dans la tendance de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, etc., et qu'ils avaient les mêmes tics physiques. Ça ne peut pas être une coïncidence. Enfin, je veux dire, cette espèce de conflictualité permanente que je trouve d'ailleurs tout à fait fatigante et tout à fait dommageable pour l'espace public, pour la qualité de l'espace public contemporain. Mais ça n'engage que moi. C'est pas du tout une évaluation sociologique. C'est le citoyen qui trouve ça.
Alors, on va faire un peu de sociologie, si je puis dire, au sens, pour le coup, peut-être un peu théorique. Vous avez fait votre thèse de doctorat de sociologie sur les décisions face à l'incertitude et peut-être que je me trompe, vous allez me corriger. Hein. Je pense que votre sociologie, elle est à la fois entre la sociologie compréhensive de Max Weber et l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Et vous avez encore une belle formule, vous dites, page 219, vous croyez profondément, dites-vous, à ce que l'on pourrait appeler une épistémologie humaniste, ce qui est un bon terme. Alors, est-ce que vous diriez que cette attitude scientifique, cette démarche scientifique, cette épistémologie qui est la vôtre, est-ce qu'elle a été rendue possible par le fait que vous en avez terminé avec une sorte d'aspiration à la pureté, que vous avez rompu avec le désir d'exemplarité?
Oui, certainement, ça, c'est plutôt une conséquence, je ne sais pas si c'est une forme de sagesse, d'ailleurs, ou un abandon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en effet, vous me définissiez bien, je me sens proche de ces auteurs. Max Weber et Raymond Boudon, sans me comparer à eux, même si je peux être critique hein, par rapport à moi, j'ai aucune adhésion pour le coup doctrinale comme ça. Ce sont pour moi des sortes de collègues en fait qui sont des géants, bien sûr. Mais sur les épaules des géants, on voit plus loin, comme vous savez. Mais il est évident que cette épistémologie humaniste. Elle fait le pari qu'avait fait Weber, d'ailleurs, avant, qu'il y a toujours assez d'humanité dans un autre être humain pour qu'on puisse le comprendre. C'est-à-dire, si on fait son travail de sociologue, reconstruire son univers mental et voir, dans le fond, les logiques, les raisons qui l'ont conduit à faire ceci ou cela, même quand il croit à des choses folles. C'est pour ça que j'ai dit à propos de ce livre, je tire de cela, de tout cela, l'idée qu'on peut croire des choses folles sans être fou soi-même. Et j'ai jamais été fou. Pourtant, je croyais à des choses vraiment perchées, comme on dit. Et ça me fait rire aujourd'hui, bien entendu. Mais je me rappelle bien, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, j'essaie de montrer les mécanismes qui peuvent conduire à ces choses folles. Et c'est pour ça que quand j'ai eu Raymond Boudon et Max Weber entre les mains, c'est arrivé assez tard, finalement, plutôt à partir de mon master. Avant, je me sentais proche de Durkheim. Enfin, on se sent toujours proche quand on est jeune. On essaie de se construire avec des auteurs, c'est bien. Mais j'ai tout de suite compris que leur modèle fonctionnait beaucoup mieux pour expliquer mon expérience, celle que j'avais vécue et qui, mon avis, est universelle, de la croyance. C'est pas que les gens croient selon des processus totalement différents. Je pense qu'il y a assez d'humanité, voilà, y compris dans l'histoire que je raconte, pour que, bien qu'elle soit très personnelle, elle ait une charge universelle. Et c'est tout ce que je dis. Et ensuite, effectivement, de cette histoire... J'avais vraiment j'étais, je pense, assez insupportable à cette époque, entre parenthèses. Je ne sais pas si je suis maintenant plus supportable, j'espère. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais effectivement des exigences extraordinaires, y compris moralement. C'est pour ça que je n'arrêtais pas de me disputer avec mes amis. Hein. Aujourd'hui, par exemple, mes amis, je les vois systématiquement avec de la tendresse. Même quand je ne suis pas d'accord avec eux, j'aime leurs défauts. Leurs défauts ne méritent plus. Et j'ai cessé, c'est vrai, de vouloir vivre dans une cathédrale de pureté. Et ceux qui veulent le faire me font peur, en fait. Je crois que la plupart des drames sont arrivés dans l'histoire et des tragédies à cause de gens qui voulaient vivre dans des cathédrales de pureté. Moi, je vis dans une petite maison qui est pleine de contradictions. Voilà. Et c'est vrai qu'à un ami que j'aime, je vais parfois pardonner des choses que je ne pardonnerai pas à quelqu'un d'autre. C'est pas cohérent. Mais c'est comme ça.
Alors,
je préfère la tendresse.
dans les années 70, il y avait un film qui s'appelait « Et la tendresse bordel hein. ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a un autre fil rouge dans votre livre, et ça, ça paraît un peu surprenant, mais c'est à la fin du livre, page 213, vous l'écrivez. Vous dites « Je n'ai pas dit grand-chose jusque-là si je n'ai pas mentionné les fous rires permanents qui accompagnaient les amitiés de cette époque. Naïl, Youssef, Kevin, Mohamed, Christian, ça me donne l'occasion de les citer, et tous les autres, comme Vincent, François Paul et les autres. Nous avions un regard mordant sur le monde, ce qui pourrait paraître étonnant compte tenu de notre crédulité sur tant de sujets. Nous n'étions dupes de rien, sauf de nous-mêmes. Une drôlerie que je ne retrouvais pas chez les jeunes bourgeois ni chez aucune des personnes que j'ai pu rencontrer dans la suite de la vie. Pourtant, j'ai croisé des gens spirituels, à l'esprit vif, mais aucun n'était animé comme nous par la volonté de rire jusqu'à la mort. » Alors là, j'étais étonné parce que peut-être que je me trompe, mais je pensais pas que l'envoûter ou le posséder aimait rire. Vous savez, au nom de la rose, d'Umberto Eco, Jorge de Burgos, le bibliothécaire, il cache le rire d'Aristote parce que faut pas rire, sinon on n'a plus peur. Et vous étiez envoûté, mais vous aimiez rire. C'est bizarre, non?
Ça peut sembler contradictoire, mais je le rajoute comme un petit supplément parce que ça m'aurait paru malhonnête de le cacher. Et ça, j'ai du mal à l'expliquer, c'est parce qu'on se moquait, y compris de nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que, y compris quand on parlait de l'apocalypse, etc., on pouvait rire aussi de cela, puis tout à coup devenir extrêmement sérieux. C'est-à-dire que c'était un va-et-vient contemplatif et difficile à expliquer. Et c'est vrai que ce rire permanent qui est encore le cas, c'est-à-dire que ces amis... Quand je les vois, je sais que si nous déjeunons pendant 2 heures, il y aura au moins 1 heure qui sera consacrée à rire, à des fous rires. C'est-à-dire qu'on finit par plus se dire grand-chose parce qu'on veut se faire rire l'un l'autre sans cesse. Et ce sont des personnes qui sont extrêmement drôles, parmi les personnes les plus drôles que j'ai jamais rencontrées. Et j'ai jamais retrouvé ça ailleurs. Je dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste la complicité qui crée ça. Et que les personnes que je rencontre à 30 ans, 40 ans, je peux pas, même si je les aime d'amitié, je peux peut-être pas avoir la même complicité avec eux. Mais je crois aussi que le fait de venir de quartiers populaires, avec d'autres variables, vous prédispose à voir de côté les choses. Et donc à voir la cocasserie. Et quand on est un nomade social, il y a une décoïncidence du regard qui fait que vous passez d'un monde social à l'autre et vous voyez mieux toutes les tartufferies, je crois, enfin tout le caractère auquel je participe moi-même, c'est-à-dire tout le caractère théâtral de la vie sociale qui est bien normal. Mais ça vous fait rire, vous arrivez plus spontanément à mettre des mots, des mimiques sur ce que vous voyez. Je crois que c'est un peu ça, tout simplement. Mais je laisse un point d'interrogation sur ce sujet.
Alors, pour conclure, j'ai une petite surprise pour vous, parce que dans votre épilogue, vous évoquez Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, l'un des livres de votre oncle Jean-Luc. Hein. Vous dites, c'est peut-être le livre qui m'a le plus marqué. Alors, je vous montre, et je montre à la caméra, un livre sur John Howe, qui a été le grand illustrateur de Tolkien. C'est le catalogue d'une remarquable exposition qui a été faite à Landerneau, au centre, au fond, Hélène et Édouard Leclerc, qui est un très beau centre culturel. Et il y avait une exposition en 2023 sur Tolkien et sur les dessins de John Howe, sur l'univers de Tolkien. Ouais, bon, voilà, un petit peu. Bon.
Oui, c'est l'air magnifique.
Et Howe a été... a participé au décor de la trilogie quand elle a été portée à l'écran hein, de Tolkien. D'accord. Alors vous dites, je voulais faire advenir le monde de Tolkien à la place de celui dans lequel j'étais incarcéré. Donc on comprend bien qu'il y a un monde parallèle. Ma question, elle est peut-être indiscrète, mais est-ce que vous êtes tenté de repartir dans l'autre monde, celui qui n'est pas le nôtre, celui de Tolkien, par exemple? Est-ce que aujourd'hui vous retournez voir, puisque vous savez que vous pouvez revenir.
D'abord, je continue quand même à apprécier la fiction d'imaginaire, quand elle est bonne. J'ai beaucoup aimé Game of Thrones, par exemple. Il y a toutes sortes de séries, de propositions narratives qui sont de bonne qualité, je trouve. Je m'interdis un peu, parce que je me méfie de mes addictions, les jeux vidéo. Alors, j'ai une consonne, mais cachée. Parce qu'effectivement, il y a dans les jeux vidéo une proposition aussi de s'immerger dans des mondes, par exemple, médiévaux fantastiques, etc. Donc, je me méfie beaucoup de ça, parce que là, je sais que je peux y passer. Et donc, je préfère essayer de construire mon œuvre plutôt que de faire cela. Mais vous avez raison, je me tiens toujours au bord, à la lisière. Mais encore une fois, parce qu'on est à la conclusion, c'est tout simplement, oui, prêt au réenchantement du monde, mais pas au prix de l'aliénation mentale, encore une fois. Mais malheureusement, le vrai miraculeux m'a toujours tenu à distance.
Voilà, alors.
Mais s'il me tend la main, je serai là.
Donc, de la part de l'anachorète Gérald de Bronner, très beau livre, L'Exorciste, très belle expérience, et ça se lit plus que comme un roman, comme un joli traité de sociologie. Merci à vous, Gérald
Bronner. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.